Jeudi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Bonjour, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Nous sommes déjà le vendredi 6 janvier 2023, il sonne 11h et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour suivre le Club La Presse sur Canal FM à Lomé ses environs, sur les ondes de Radio Lumière à Nero, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapan, Radio Sama FM à Baga, côté de Niamtougou, et Radio Centrale FM à Sokoré. Ce n'est pas fini. Les radios numériques, Ebene Radio, Radio Gameli, l'application Canal FM et même la chaîne YouTube nous rendent visibles dans le monde entier. Nous en sommes honorés et remercions les techniciens qui nous accompagnent, Thomas Datevi et Jérôme Dakoucha. J'ai autour de moi aujourd'hui un confrère, Francesco Kossi Gbande Napokura de Tampa Express. Bonjour.
Oui, bonjour Sas Gao, bonjour honorable invité, et bonjour les auditeurs, et bonne et heureuse année.
Je devrais vous saluer en langue bassa, apoya, parce que comme nous vous l'avons dit, cette année 2023, nous vous saluerons bien sûr dans la langue officielle du Togo, bonjour, et puis au jour le jour, nous allons décliner les langues nationales. Ainsi, Apoya pour les Bassa, également Moru pour les Akebu, Ivoa Kamio pour les Akoso et Ibeo pour les Mossi Moré. Vous nous excusez si ce n'est pas très bien prononcé, mais bon. Nous allons y arriver un jour.
Bon.
Eh bien, la pensée du jour qui nous guide aujourd'hui dit « Trouvez toujours le courage de parler » et l'envie de clarifier les choses. Parce que les choses pèsent comme les pierres, et les pierres deviennent des murs, et les murs enfin séparent. Encore une fois, trouvez toujours le courage de parler et l'envie de clarifier les choses. Parce que les silences pèsent comme les pierres, et les pierres deviennent des murs, et les murs enfin séparent. C'est cette pensée du jour qui nous inspire pendant que nous vous présentons les deux personnalités qui nous honorent aujourd'hui par leur présence au studio. Monsieur Christian Eninam Trimoua, bonjour.
Bonjour Sas, bonne heureuse année.
Bonne heureuse année à vous aussi, ministre des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République, porte-parole du gouvernement. Monsieur Trimoua est là pour nous présenter les vœux, les siens propres, les vœux également en tant que ministre des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République, mais il aura également à nous clarifier deux aspects des vœux que le chef de l'État nous a formulés, à savoir quel est le sentiment national et de patriotisme, quelle est la vigilance et la conscience éclairée qui doit nous guider devant ce péril du terrorisme. Voilà l'objet de la présence du ministre Moi avec nous, et il n'est pas le seul. Il a son aîné également avec nous, le ministre, l'ancien ministre d'État, Eliott Ohine. Bonjour.
Bonjour, monsieur Sas Gao, et bonjour à tous les auditeurs.
Et auditrices.
Auditeur, auditrice, bien sûr. Meilleurs vœux.
Merci. Ancien ministre d'État, mais nous l'accueillons aujourd'hui en sa qualité de deuxième vice-président de l'Union des forces de changement, parce que nous avons également le message que le président de l'UFC, chef de file de l'opposition, message de vœux qui le parti UFC a publié. Et également, on annonce les cérémonies commémoratives des 60 ans de l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Voilà l'objet de l'invitation que nous avons adressée aux deux personnalités qui sont avec nous. Eh bien, M. Trimouin, commençons par... vous m'avez formulé les vœux à moi. Maintenant, les auditeurs du Club La Presse veulent écouter les vœux de la nouvelle année du ministre Trimouin avec votre portefeuille assez long, M. le ministre.
Merci Sass, merci aux auditrices et aux auditeurs de Canal FM. Je voudrais à mon tour présenter tous les vœux de santé et de prospérité à nos compatriotes, à toute la population togolaise pour cette année 2023. Notre économie est résiliente, c'est vrai, mais chacun d'entre nous doit également faire sa contribution, apporter sa contribution pour le bien-être commun, la prospérité commune, telle que notre hymne national le prévoit. Je voudrais nous encourager tous dans ce sens-là. Surtout la fraternité togolaise que nous avons, nous, quelles que soient les circonstances que nous traversons, que nous ne perdons pas de vue, que nous sommes d'abord tous des frères d'un même pays. Et le chef de l'État l'a rappelé, travail, liberté et patrie doivent rester nos valeurs constantes.
Merci. Merci. Je vous rappelle juste que vous êtes ministre des Droits de l'Homme et l'année 2022 a vu le Togo à son dernier passage devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avec l'examen périodique universel. Nous sommes passés les recommandations, nous sommes arrivés, le Togo les a examinées, acceptées, ce que l'État togolais voulait, les autres, selon le traitement qu'il y sied. Ça, c'est pour les droits de l'homme. C'est pour vous dire, monsieur le ministre, que les droits de l'homme, c'est au quotidien. Absolument. Et cette année, le gouvernement sera interpellé à travers votre ministère.
Oui, c'est vrai, nous nous définissons comme le ministère de la Constitution, puisque nous avons les trois dimensions d'une Constitution. Les droits de l'homme, nous avons également les obligations des citoyens, c'est ce qu'on appelle la citoyenneté. Et puis nous avons les relations avec les institutions, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, la collaboration entre les différentes institutions. Et la démocratie, c'est quelque chose que l'on cultive tous les jours. Les droits de l'homme ne seront jamais à 100% parfaits dans aucun pays au monde. En revanche, ça reste un idéal vers lequel nous devons constamment tendre. Faire des efforts individuels, faire des efforts collectifs, faire en sorte que l'État joue sa partition, mais aussi que le citoyen joue sa partition. Parce que n'oublions jamais que nos droits s'arrêtent là où commencent ceux des autres. Et qu'à partir du moment où nos droits s'arrêtent là où commencent ceux des autres, ça devient une obligation pour nous de faire en sorte que les autres puissent également vivre leurs droits. Si nous le faisons de cette manière, il me semble que nous arriverons progressivement à consolider les bases réelles d'un État de droit tel que chacun de nous rêve de l'avoir chez nous.
Vous êtes également ministre en charge de la formation, la citoyenneté. Alors, c'est qui le citoyen togolais dans nos comportements au jour le jour? Il y a quelque temps, monsieur le ministre, vous avez dû attirer notre attention sur le respect que les Togolais doivent observer devant les armoiries de la République, les symboles de l'État comme le drapeau, la devise et consorts. Ça veut dire que... Et puis, monsieur le ministre, je ne vous cache pas qu'au Club de la Presse, il nous arrive souvent de vous interpeller sur les thématiques de la formation de la citoyenneté.
Vous savez, le citoyen peut se définir très simplement. C'est celui qui respecte l'autorité. Et la notion d'autorité, ce n'est pas seulement l'autorité de l'État. Ça commence dans la famille. Le respect des aînés, le respect des parents, le respect ensuite des symboles de l'autorité traditionnelle, le respect des services, dans les services, les chefs de service, le respect de l'État, le respect de l'autorité, de la police, de la gendarmerie, des enseignants. Parce que quand vous insultez votre enseignant, vous le banalisez, vous vous en moquez, alors vous violez l'autorité, donc vous n'êtes pas citoyen. Le citoyen, c'est celui qui respecte la hiérarchie telle qu'elle est établie dans les familles et par l'État. Et c'est parce que nous respectons cette hiérarchie qu'elle nous protège aussi et qu'elle nous accorde les droits, qu'elle peut nous permettre d'exercer nos droits dans un environnement serein. Le Togo, notre pays, vous savez, depuis, fait face, comme dans la sous-région, à différents défis sécuritaires. Nous ne pouvons pas ensemble combattre ces ennemis de notre nation si nous ne respectons pas ces règles qui sont celles d'un citoyen. Ce n'est pas simplement banaliser, si vous voulez, prendre des armes contre un terroriste. Rappelez-vous, il y a quelque temps encore, nos troupes étaient attaquées au Mali. Quand nos troupes sont attaquées au Mali, alors que les soldats togolais ne sont pas combattants au Mali. Ils tiennent notamment les centres de santé au Mali. Ça voudrait dire que c'est le drapeau togolais qui est attaqué. Nous ne pouvons pas défendre ce drapeau togolais tel qu'il est attaqué au Mali, tel qu'il est attaqué aujourd'hui dans les savanes, parce que les terroristes qui attaquent notre territoire attaquent le symbole de la patrie. Rappelons-nous, travail, liberté et patrie. C'est une partie de notre devise. S'ils attaquent ces phénomènes, ces symboles qui nous représentent individuellement, c'est qu'ils s'en prennent à nous. Si nous-mêmes, nous ne respectons pas ces symboles, alors nous n'aurons pas la force nécessaire pour pouvoir les défendre. Nous devons respecter le drapeau. Nous ne pouvons pas accepter qu'on banalise le drapeau togolais, qu'on le piétine, ou qu'à l'occasion de manifestations, de protestations de toute nature, qu'on brûle le drapeau. Nous ne pouvons pas accepter que les armoiries, les deux lions, qui, dans ce combat contre le terrorisme, restent nos références. Rappelez-vous, ce sont des lions de gueule. La notion de gueule, en héraldique, ça veut dire des lions qui sont rouges, rouges sang, qui sont combattants, qui ont l'arc et la flèche, c'est-à-dire les moyens de défense de la patrie. Si nous les banalisons, alors nous affaiblissons nos troupes. Nous sommes tous des lionceaux qui devons nous battre pour protéger notre territoire en cette période-là. Donc les armoiries restent des symboles qui nous rappellent ce que nous sommes. Nous devons absolument les respecter. Si nous ne les respectons pas, alors nous donnons prise à l'ennemi sur nous. Troisième temps, c'est l'hymne national. L'hymne national, reprenez les paroles de notre hymne national, les trois couplets de l'hymne national. Vous avez des valeurs fortes qui sont proclamées dans cet hymne national. Si nous ne nous levons pas et nous ne respectons pas l'hymne national, quand il est chanté, quand il est entonné, qui est notre chant de guerre, qui est le chant qui nous donne le courage, quand la vie est chère, c'est par cet hymne qui nous rappelle que nous devons être prospères, que nous sommes l'or de l'humanité. C'est cet hymne qui nous donne la force de protéger le Togo, d'être des frères et sœurs au Togo. Bien évidemment, si nous banalisons ça, alors nous n'avons plus de chant de guerre. Si nous n'avons plus de chant de guerre, nous n'avons plus le chant qui nous redonne le courage quand nous sommes faibles, bien naturellement, nous perdons nos forces. Donc, il y a dans ces symboles des pouvoirs. Ce n'est pas simplement des dessins, ce n'est pas simplement des morceaux de tissu. Ce sont aussi des pouvoirs. Et c'est spirituel. C'est spirituel, c'est intellectuel, c'est physique. Nous l'avons hérité de nos pères. Nous devons les transmettre à nos enfants de génération en génération. Donc faisons en sorte que ce passage de flambeau reste vraiment sans tâche. Faisons en sorte que ça reste vraiment sans tâche. Respectons tous ces symboles qui nous représentent, qui vous représentent et qui sont le symbole qui nous unit tous à travers le monde.
Vous êtes également ministre, c'est vous qui avez en charge les relations entre les institutions de la République, le président de la République, le gouvernement dont vous êtes, l'Assemblée nationale, le pouvoir judiciaire, mais également les autres institutions constitutionnelles. Ça veut dire que c'est vous qui aidez à jouer à la régulation entre toutes ces institutions, monsieur le ministre.
Oui, c'est vrai. Le ministre des Relations avec les institutions, c'est lui qui anime un peu cette dynamique inter-organe, inter-institutionnelle, la notion de séparation des pouvoirs qu'on évoque, le respect des attributions de chacun des organes de l'État, depuis la présidence, passant par le Parlement, les instances de régulation comme le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la HAC, vous avez cité les autres institutions que nous avons. Mais c'est en même temps lui qui exerce un peu à titre de délégation les attributions du chef de l'État en tant que garant des institutions. Puisque le chef de l'État en tant que garant des institutions n'est pas à l'intérieur des institutions. Il n'a accès au Parlement qu'une fois par an pour le discours sur l'état de la nation. Il ne participe pas aux travaux parlementaires, mais c'est le ministre chargé des relations avec les institutions qui, à l'intérieur des institutions, transmet non seulement la vision du gouvernement et les prises de position du gouvernement, mais veille et fait rapport au chef de l'État sur la vie intra-institutionnelle et inter-institutionnelle. Comment les relations entre les différentes institutions se passent? Comment est-ce que le pouvoir est géré à l'intérieur des institutions? Comment les droits sont garantis et comment les institutions veillent à ce que les citoyens puissent accomplir leurs devoirs vis-à-vis de la patrie. C'est le rôle du ministre chargé des relations avec les institutions. Et je pense que, pour prendre notre pays jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous faisons de très grands progrès là-dessus et la dynamique interinstitutionnelle au Togo, elle est bonne. Elle est bonne. Même si elle peut paraître à nos citoyens qu'il y a encore des déficits, il y a encore des défis à relever, nous avons plutôt une démocratie qui s'installe fondamentalement.
Nous allons en parler en votre qualité de porte-parole du gouvernement avec votre collègue, le professeur Ayewadan, que nous avons eu l'honneur de recevoir en début de semaine. Vous nous aiderez à comprendre davantage les vœux que le chef de l'État nous a formulés. Mais en attendant, Franco Napokoura, vous avez écouté le ministre et moi nous dire ses vœux propres et également les vœux de tous ces départements ministériels qu'il assume.
Oui, effectivement. Disons, on ne peut que le féliciter pour la lourde charge et surtout son dernier appel aux citoyens en ce qui concerne le respect des armoiries de la République. Et à cet effet, je voudrais poser la question au ministre, est-ce que les armoiries de la République sont respectées par l'autorité publique même? Je commence par les papiers en tête que nous voyons, les communiqués de l'État, du gouvernement qui circulent ici et là de l'administration publique. On ne sait pas quelle est l'entête de l'État. Et vous avez cité tout à l'heure les deux lions. Et cela nous ramène, et cela ramène les Togolais au carrefour de la République, où il y a le monument des deux lions.
À Gouin.
Oui, vous avez dit la couleur du lion, disons, couleur or, ce qu'on constate devant les camps militaires, qui représentent de grandes valeurs. Mais nos deux lions sont blancs. Et ça, c'est un monument de la République. Et au-dessus des deux lions, nous avons deux drapelets. Et ces drapelets, je vous dis, chaque saison, et actuellement, même quand vous passez, on se demande quelle est la couleur, sinon quelles sont les couleurs du Togo. Est-ce que c'est le bleu, le blanc, le rouge, le jaune et le vert?
Vous dites que les drapelets sont fortement décolorés.
Et même déchiquetés. Est-ce qu'on est obligé, en ce moment, on n'a pas la matière nécessaire, de poser les deux drapelets au-dessus de ces monuments? Parce que c'est des reflets pour tout le monde. Et quand vous voyez, c'est les clips vidéo qui sont tournés vers là. Et on parle de Lyon, des armoiries de la République. Au moins, ce qu'on représente, qu'on a comme monument, devrait refléter, la chose. Et enfin, nous avons constaté, c'était la semaine dernière, votre collègue de l'enseignement primaire, technique, secondaire, avait pris une mesure qui a sanctionné trois enseignants qui sont des directeurs d'établissement et qui ont amené des artistes avec vraiment des chansons qui ne tiennent pas en milieu scolaire. Et votre collègue a pris la décision à donner sanction. Mais cet artiste, c'est un député de la République qui l'a fait introduire dans l'école. En tant que ministre chargé des relations avec le Parlement, est-ce qu'il y aura une action envisagée contre ce député qui a amené un artiste qui ne tient pas? Parce que quand vous voyez le comportement, l'habillement, la tête jusqu'aux pieds, ce n'est pas quelque chose à amener dans le milieu scolaire. Est-ce qu'à votre niveau, il y aura des mesures pour ça?
Monsieur le ministre. Petite batterie de questions.
Alors, ça fait une vraie batterie de questions qui a été posée. J'essaierai de me rappeler la totalité des questions et puis d'y répondre. Vous prenez sur les armoiries quand vous demandez si l'administration publique respecte les armoiries. L'administration publique respecte les armoiries de l'État. Nos armoiries ont beaucoup varié dans l'histoire, puisque les premières armoiries sous le Togo indépendant ont été faites en 62. Et donc sous la Première République. Et on les a conservés jusqu'à, disons, début de la Troisième République. Sous la Troisième République, donc 1980, à partir de 1980, il y a eu, dans la Constitution de 1980, un nouveau, ce qu'on appelle un blason, un nouveau blason, blasonnement, si vous voulez, de ces armoiries. Et à partir de ce moment, on a eu une variation. Mais depuis 2008, la Cour constitutionnelle togolaise a stabilisé les armoiries du Togo. Il y a une décision de la Cour constitutionnelle de 2008 qui a défini les armoiries à partir de l'article 3, tel qu'elle est prévue par la Constitution togolaise. Et ces armoiries aujourd'hui sont celles que nous utilisons, que vous trouvez par exemple sur les documents administratifs, les passeports, les cartes d'identité, avec toute la description qui a été faite avec. Et c'est intéressant de regarder cette décision de la Cour constitutionnelle, qui est d'ailleurs en ligne, qui est en ligne et qui explique ce que c'est que les armoiries, comment il faut les présenter. Et il y a un modèle que la Cour a mis à côté de ces armoiries. Maintenant, ces armoiries telles qu'elles apparaissent sur les documents officiels aujourd'hui sont les armoiries officielles du Togo. Les administrations ont le droit de les utiliser. Des personnalités ont le droit de les utiliser. Il y a des offices, je prends les officiers ministériels tels que les notaires par exemple, ont le droit de les utiliser sous certaines conditions, et il y a différentes administrations qui peuvent les utiliser dans des conditions qui sont définies. Il y a alors en 2010 un arrêté qu'on avait pris mais qui doit être réactualisé, qui définit la liste de tous ceux qui ont le droit, par exemple sur les cartes de visite ou les papiers en tête, d'utiliser les armoiries. Mais tout le monde n'a pas le droit de mettre les armoiries sur n'importe quoi. Vous voyez des armoiries même sur des strings. et le drapeau national est imprimé sur des strings. S'il vous plaît, nous sommes d'accord qu'il y a la culture et l'art, mais n'exagérons pas. Ça reste des symboles importants. Ce n'est pas parce qu'on fête le 27 avril qu'on peut imprimer le drapeau national sur n'importe quoi. Nous avons même vu sur des préservatifs. Respectons ces symboles forts de l'État. Ce sont, prenons-les comme des fétiches, si vous voulez. Parce que ça nous définit et il y a une force dans ces choses-là. Maintenant, vous avez abordé la question de l'état des drapeaux. Mais ça dépasse le monument de la République. Ça vaut pour toutes les institutions. Dans les cours de chef, vous voyez des drapeaux qui sont déchirés. Dans des écoles, vous avez des drapeaux qui sont déchirés. Ce n'est pas normal. C'est la responsabilité d'abord des maires et des conseils municipaux. Pour ce qui concerne par exemple les deux lions à Gouet, c'est la responsabilité de la commune Agouet-Nivet 1. Ils doivent veiller à ce que ces drapeaux soient renouvelés régulièrement. C'est la même chose quand vous êtes dans un établissement scolaire. C'est la responsabilité du chef de l'établissement. Un drapeau coûte combien, objectivement? Donc, il me semble que ces choses, nous allons commencer véritablement à faire une patrouille là-dessus. Le ministre de l'Enseignement a déjà commencé dans le secteur qui est le sien. Les autres collègues travailleront également. En temps, il y a eu même une note de ma collègue des sports qui rappelait également pour les fédérations sportives et les clubs. Nous allons remettre de l'ordre et de la discipline dans tous ces éléments. Il faut respecter les armoiries, il faut respecter le drapeau et le drapeau se renouvelle. C'est vrai, c'est un support, le tissu, qui peut se dégrader avec les intempéries puisqu'il est exposé. Mais alors, ceux qui sont responsables doivent pouvoir le renouveler. C'est une obligation, c'est pas facultatif. Et nous verrons à ce que ces symboles soient respectés désormais.
Enfin, l'incident qui s'est passé.
Alors, vous allez évoquer l'incident sur
votre collègue a sévi contre les enseignants, mais ce fait que l'artiste a été introduit dans l'école par un député de la République.
Alors, je dois vous dire sincèrement, je connais pas les détails de comment ça s'est organisé. Vous me donnez un élément d'appréciation sur le fait que c'est un député de la République qui a introduit l'artiste. Alors, si le député a introduit l'artiste, peu importe, le député n'a pas mis dans les bouches de l'artiste les mots à prononcer. Mais dans quel cadre il l'a introduit? Comment il l'a introduit? Je dis encore une fois, je n'ai pas les détails de cet élément, donc je ne peux pas vraiment me prononcer sur la responsabilité des uns ou des autres. Mais si mon collègue a estimé nécessaire de sanctionner les responsables de l'établissement, c'est que naturellement il doit avoir les détails de ce qu'il lui apporte, qui lui a permis d'établir leur responsabilité dans cette organisation. Très sincèrement, je ne peux pas me plus développer que ça puisque je n'ai pas tous les éléments de cette affaire.
Merci à vous, monsieur le ministre.
Pour terminer, pour les couleurs, nous voyons des établissements scolaires, des centres de santé qui sont peints en bleu blanc. Est-ce que c'est de bonnes couleurs pour nos établissements publics? Parce que les établissements publics, la gendarmerie, la police, tous doivent avoir une certaine norme de couleur. Est-ce que c'est une bonne chose, ce que nous voyons?
Non, je pense que vous voulez politiser un système, une histoire qui n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas dans notre pays un code couleur pour des bâtiments publics. Ça veut dire quoi, au fond? Ça veut dire qu'un bâtiment, quand il est conçu par un architecte, par quelqu'un qui le donne, ou qui choisit les couleurs qu'il veut. C'est qu'on n'a pas un code couleur aujourd'hui là-dessus. Je sais que vous faites du bleu, là, vous voulez parler du Parti Uni, vous voulez parler des choses comme ça. Allons-y directement. Disons les choses clairement. Non. Ce que je voudrais vous dire simplement, je crois qu'il n'y a pas de polémique à faire sur ça. Si vous souhaitez mettre un code couleur, la question est simple. Quelles sont les couleurs que vous mettez, qui sont les couleurs de la République? Les couleurs du drapeau national. Mais aujourd'hui, vous avez dans des partis politiques qui portent les mêmes couleurs que le drapeau national. Le rouge, vous le trouvez dans les partis comme le CAR. Donc demain, si vous peignez en rouge, on va vous dire que c'est la question du CAR. Vous le mettez en or parce que c'est du jaune, on vous dira c'est l'UFC ou bien c'est l'ANC. Vous le mettez en quelle couleur? Donc au fond, je pense que sur ces questions aujourd'hui, sauf à ce que l'État définisse une couleur officielle pour les bâtiments publics, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on est encore dans un régime de liberté. Et ce régime de liberté, malheureusement, il doit continuer encore, même si vous pouvez avoir une connotation comme celle que vous êtes en train de suggérer.
Merci à vous, monsieur le ministre. Trimois, nous laissons un peu souffler. Nous nous tournons vers nos secondes invités. Monsieur le ministre Eliott Ohin, rebonjour. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui, en votre qualité de deuxième vice-président de l'Union des forces de changement, votre parti qui a publié également en date d'hier un message portant vœu du président national Gikris Olympio au peuple togolais. Bien sûr, le document circule, mais voulez-vous nous résumer un peu l'essentiel des vœux que votre parti adresse aux populations togolaises?
Merci beaucoup pour cette question importante, surtout au début de cette année. Le président national de l'UFC, Dr. Gilles Olympio, qui a toujours respecté, justement, qui s'est sacrifié à la tradition en présentant ses voeux de bien-être à tout le peuple togolais. C'est une tradition chez nous, il l'a fait, mais il a présenté ses voeux pour le bien-être de tout le peuple. Ce bien-être passe obligatoirement par notre victoire sur un certain nombre de défis socio-économiques et sécuritaires, entre autres. Parmi ces défis, nous pouvons citer la pauvreté, qui malheureusement s'est accrue par la crise sanitaire à coronavirus, qui n'a pas du tout aidé le gouvernement à pas annihiler, mais à essayer justement de réduire la pauvreté. Cette crise l'a aggravée. Et nous devons aussi citer comme défi la corruption qui est un véritable handicap pour le développement, qui est un frein au développement. Nous citerons aussi comme défi, sur lequel nous devons avoir une certaine victoire, l'impunité. L'impunité, vous savez, on dit souvent que l'impunité des grands engendre, disons, l'incivisme des petits. Et cela peut nous conduire très loin. Et c'est un cercle vicieux de désordre généralisé qui peut aller jusqu'au soulèvement populaire. Donc nous devons essayer justement d'arrêter, justement, de voir dans quelle mesure nous avons le ministre qui s'occupe aussi des institutions, voir dans quelle mesure l'impunité peut être arrêtée ou diminuée dans notre pays. Il y a aussi un défi important qu'il faut citer, le défi sécuritaire, qui nous interpelle tous, à quelque niveau que ce soit. Parce que, vous savez, dans ce pays, nous sommes tous des potentiels victimes, justement, de ce qui se passe dans nos pays avec les terroristes. Et sur ce point, M. Olympio tient, justement, à remercier et à jeter vraiment des fleurs à nos forces de défense et de sécurité qui font du bon travail pour sécuriser toute la population togolaise et le gouvernement qui s'efforce aussi de leur donner tous les moyens. Au-delà de tous ces défis socio-économiques et sécuritaires, nous avons un défi important qui est justement le défi de la politique, le défi politique qui est aussi les élections qui sont à venir, l'élection régionale et l'élection législative. Là-dessus aussi, nous appelons le gouvernement et toute la population au calme pour que, comme nous avons l'habitude de le faire maintenant, que les élections se passent dans la transparence totale et qu'on puisse vraiment, après les élections, que les vaincus félicitent les vainqueurs et que tout se passe dans le calme. Voilà un peu, en gros, résumé rapidement, ce que le président Gilles Olympio a souhaité qu'on veut à ses concitoyens. Au-delà de tout ça, nous souhaitons justement la santé, la prospérité et le succès et le bonheur à tous nos compatriotes.
Merci. Je rappelle que le message est rendu public en date du 4 janvier 2022, 2023, pardon. Ah oui, je constate, le mai le 4 janvier 2022, il y a peut-être une coquille là-bas à corriger pour nous conformer à l'année. Mais monsieur le ministre, nous parlons tantôt avec le ministre Trimouin de la forme. La forme républicaine de l'État qui doit se décliner dans toutes ses entités. Et je vois que le message de vœux de l'UFC est signé. Le président national de l'UFC, chef de file de l'opposition et par ordre, le deuxième vice-président, Eliott Orine. Est-ce que la forme y est? Que le président Olympio soit encore vivant et que vous signez son message de vœux par ordre? Juste pour comprendre, monsieur Orine.
Écoutez, nous avons un parti politique qui a justement des structures, qui a aussi des tests. Nos tests dans ce domaine sont clairs. En l'absence du président national sur le territoire, c'est les vice-présidents dans ordre de préséance qui dirigent les affaires. Mm-hmm. Donc, il est évident que ce message n'a pas été signé, parce qu'il n'est pas sur le territoire, par moi, en tant que deuxième vice-président, sans son accord. Il est évident qu'on est en contact avec lui, on lui a fait l'IA et il a demandé à ce qu'on respecte les tests et qu'on le signe. C'est tout, ce n'est pas du tout.
Je pose la question juste pour que nous n'ayons pas des sons de cloche que dans l'entourage de M. Olympio, on dise qu'il n'aurait pas été l'initiateur de ce message. Vous connaissez notre pays, vous connaissez surtout votre... C'est pourquoi je pose la question pour qu'on comprenne bien.
Oh là là, notre parti, oui. Vraiment. Non, écoutez, ne vous en faites pas de ce côté-là. Mm-hmm. Il est évident que tout ce qui passe dans notre parti se passe en accord avec le président national. Mm-hmm. Il est au courant, je te veux, il ne communique pas territoire, il ne respecte pas nos tests. Et voilà pour que la raison pour laquelle ce test a été signé. Vous manquez de savoir que PO. Mm-hmm. Donc, c'est avec son accord.
Merci, Franco.
Oui, merci, monsieur le ministre. Je voudrais savoir.
Ah, monsieur Ohin, plutôt, pour ne pas créer.
Non, un ancien ministre.
Ah, ok.
Ok, monsieur le ministre Ohin. Ohin, voilà. Je voudrais savoir si l'accord RPT Unir et RPT UFC continuent avec Unir. Un, de deux, le président national de l'UFC continue de l'appeler chef de file de l'opposition. Est-ce que vous sentez qu'il joue son rôle?
Monsieur Rin?
Oui, c'est une très bonne question. Je vais commencer par la dernière. Est-ce que le président national de l'UFC joue son rôle de chef de file de l'opposition? Il le joue pleinement. J'ai eu cette question tout à l'heure, d'ailleurs, à une autre émission. J'expliquais justement à un de vos confrères que ce n'est pas juste une enceinte qui constitue le travail à faire. Le travail à faire pour le chef de file de l'opposition, monsieur Olympio le fait. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons des tests qui sont clairs. Ce n'est pas parce que monsieur Olympio est absent sur le territoire en ce moment que les vice-présidents ne jouent pas ce rôle-là. C'est vrai qu'il n'y a pas une enceinte dans laquelle qu'on peut dire en disant « ça, c'est le bureau ou le siège du chef de file de l'opposition », mais cela n'empêche pas que le travail se fait. Et que le chef de file de l'opposition, quand il était avant de quitter le Togo, il a eu à rencontrer à plusieurs reprises les autres camarades de l'opposition avec qui il est en contact, et nous-mêmes, nous continuons à le faire. Donc, de ce côté-là, le travail se fait. C'est parce qu'on n'a pas un mur, et ça, on a la chance d'avoir le ministre avec nous ici, c'est une question, justement, qui revient à l'État. Vous parlez d'institution, l'institution, ça correspond à l'État. C'est à l'État, justement, de doter, justement, cette institution de tous les éléments nécessaires pour son fonctionnement, et c'est tout. Ce n'est pas un problème, nous fonctionnons.
Alors justement, c'est la question, M. Trimois. Puisque vous êtes le ministre en charge des relations avec les institutions de la République, quelles sont les relations justement que vous aidez à coordonner avec l'institution qu'est le chef de file de l'opposition?
Alors, je vous remercie beaucoup pour avoir abordé ce sujet, parce que le chef de file de l'opposition est effectivement une institution de la République. C'est vrai que c'est une institution qui n'est pas constitutionnelle, qui est législative, puisqu'elle découle de la loi sur le statut de l'opposition. Et il est dit dans ce texte que le chef de file de l'opposition est le parti d'opposition parlementaire qui a le plus grand nombre de députés. Et donc, il désigne le chef de file de l'opposition, qui peut être un parlementaire ou un parlementaire. Dans le cas du chef de file actuel, c'est M. Solimpio qui n'est pas parlementaire, mais qui est chef de file de l'opposition, puisque c'est son parti qui forme la majorité au sein de l'opposition à l'Assemblée nationale. Mais depuis que ce test existe, nous avions déjà fait une première expérience sous la législature passée, donc la cinquième, nous sommes sous la sixième législature aujourd'hui, on n'a pas vraiment visé cette institution. Donc depuis la sixième législature, celle que nous vivons actuellement, qui est dans sa dernière année de mandat, le chef de l'État a donné des instructions pour qu'on consolide et qu'on institutionnalise véritablement le chef de file de l'opposition en tant qu'institution de la République. Nous avons donc commencé un travail avec le groupe parlementaire, puisque, il faut le rappeler, et c'est peut-être que vous avez dit tout à l'heure, en mentionnant la signature, le chef de file est désigné à partir du Parlement, donc à partir de la composition de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Et l'interlocuteur institutionnel, pour nous, c'est le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Parce que si vous aviez, par exemple, une coalition de partis qui formait la majorité, vous n'aurez pas un seul qui serait identifié comme chef de file, il s'organiserait en leur sein pour désigner, donc ce ne serait pas forcément ce parti-là qui serait, c'est le groupe de partis qui forme la coalition, qui serait donc le chef de file de l'opposition. Donc nous avons travaillé avec le groupe parlementaire jusqu'à maintenant.
Le groupe parlementaire UFC.
Le groupe parlementaire UFC à l'Assemblée nationale. Puisque c'est eux notre interlocuteur. Il faut bien comprendre deux choses. Moi, je gère les institutions de la République. Le ministre Boukpessi, le ministre d'État Boukpessi, gère les partis politiques. Ça veut dire que moi, je n'interagis pas directement avec les partis politiques, même s'ils composent une institution. Se passe par le ministre Boukpessi pour interagir avec les partis lorsqu'ils agissent en tant que partis politiques. En revanche, lorsqu'ils sont au sein d'une institution, comme le chef de file de l'opposition, ce sont mes interlocuteurs immédiats. Et à l'Assemblée, donc, vous avez un groupe parlementaire UFC à l'Assemblée. C'est le groupe parlementaire qui est mon interlocuteur en tant qu'institution de la République, en tant que représentant du chef de file de l'opposition parlementaire. Ou alors M. Jécris, bien évidemment, lorsque lui-même est disponible, on travaille avec lui, bien évidemment, sur ce sujet. Donc, nous avons commencé un premier travail qui était l'identification d'un siège. Il faut arrêter un siège. Il faut qu'il y ait une adresse du chef de file de l'opposition. Et ce n'est pas au gouvernement de leur rechercher le siège, c'est au parti qui est concerné que nous avons demandé de rechercher son siège, ensuite de nous le dire pour que nous puissions prendre les dispositions avec la direction du matériel pour mettre les équipements nécessaires, faire les locations si c'est une location de bâtiment et les équiper tels qu'on est en train de faire. Ils s'y sont depuis longtemps, mais les questions immobilières pour des bureaux à Lomé n'est pas toujours facile et l'UFC est en train de rechercher aujourd'hui activement un siège pour installer le chef de file de l'opposition. Côté de l'État, les dispositions sont prises pour cela. La deuxième, le chef de file de l'opposition a souhaité avoir un cabinet pour l'encadrer, pour avoir du personnel autour de lui. Il a exprimé son vœu, l'État a pris les dispositions nécessaires et a fait les contrats nécessaires aux collaborateurs du chef de file de l'opposition aujourd'hui. Donc le chef de l'opposition dispose d'un cabinet aujourd'hui. Alors, c'est eux qui gèrent de façon totalement indépendante leurs activités, leur personnel. Nous n'avons fait que mettre à disposition les contrats nécessaires, mais ce sont eux qui ont désigné le personnel en question. L'État n'a désigné personne pour le chef de file de l'opposition. Il ne fait que payer les salaires et signer les contrats. Donc, aujourd'hui, nous en sommes à ce niveau. Pour l'exercice 2023, bien évidemment, ils se sont pris un peu tard sur la procédure budgétaire, mais le chef de l'État donne des instructions pour qu'on puisse mettre un crédit à disposition pour un fonctionnement institutionnel du chef de file de l'opposition. Vous voyez que notre démocratie se consolide, y compris par les opinions alternatives qui vont progressivement permettre d'avoir, si vous voulez, dans la contradiction et donner à nos compatriotes les éléments d'appréciation.
Il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions, mais nous n'avons pas tout le temps. Souffrez qu'on en revienne donc à ce que nous avons défini aujourd'hui. Monsieur Ohin, nous avons également connaissance d'un communiqué publié le 5 janvier par votre parti, l'UFC, et qui annonce les cérémonies commémoratives des 60 ans de l'assassinat du président Sylvain Olympio. Il y a tout un catalogue d'activités, mais voulez-vous nous en rappeler les plus importantes, monsieur Ohin?
Oui, avec plaisir, parce que c'est très important de commémorer justement les 60 ans de l'assassinat du président Sylvain Olympio. Ces activités commencent le samedi prochain, c'est-à-dire
samedi
demain, par une conférence débat au siège de notre parti, à 8h30, le thème de cette conférence débat sera Sylvain Olympio, analyse, bilan et leçon d'une vision politico-économique actuelle. Donc, c'est demain, à 8h30, de 8h30 à 11h, à notre siège, qu'il y aura cette conférence débat. Le 12 janvier, la veille justement de la date fatidique de la mort du président Sylvain Olympio, nous avons l'habitude de faire une veillée. La veillée aura lieu à notre siège à partir de 17h jusqu'à 20h, ça dépend de comment les choses vont se passer. La veillée, et le vendredi, généralement le vendredi, c'est-à-dire le 13 janvier, nous avons l'habitude justement de partir en cortège à Agouet, où il met le président Sylvain Olympio, pour déposer des gerbes sur sa tombe. Et ce vendredi-là, les messes seront dites dans toutes nos préfectures par nos fédérations, les fédérations de l'UFC, du parti. Et bon, écoutez, les 60 ans, ce serait un événement important pour nous. C'est pour ça que nous commençons très tôt et que déjà, demain, il y aura cette conférence débat qui est très importante. Je pense que tout ce mois de janvier serait l'année pour nous au sein à l'UFC, l'année de Sylvain Olympio.
Merci. Vous y prenez une semaine d'avance, mais dites-nous, monsieur Ohin, est-ce que c'est l'UFC, l'Union des forces de changement, vraiment unie avec toutes ces entités, tous ces militants qui vont commémorer cet événement? Ou bien est-ce qu'on risque d'assister à une faction par-ci, à des opinions par-là?
Écoutez, en tant que responsable de ce parti, en l'absence du président, il y a les vice-présidents et je suis le deuxième vice-président. Nous n'avons pas un autre programme que le programme que nous avons proposé. Donc, nous pensons que tout le monde sera avec nous, que tout se passera normalement, comme ça doit se doit. Olympio, le président Olympio n'appartient pas à des clans, appartient à un Togo, à tous les Togolais. Ce n'est pas uniquement à l'UFC d'ailleurs. Il était le président de tous les Togolais. Donc, il n'y a pas de raison que pour commémorer ses 60 ans, que le parti soit encore divisé ou est divisé pour cela. Je ne pense pas. Mais bon, écoutez, ce n'est pas un problème. De toute façon, nous allons faire les choses officiellement.
Merci. Je ne parlerai pas de division, mais nous avons connaissance de certaines distorsions en votre sein. Vous-même, vous avez dû prendre un acte pour suspendre un de vos camarades. Et comme de la réponse du berger à la bergère, vous-même, vous avez été mis en minorité, sinon suspendu par une réunion de vos camarades. C'est pour savoir si, entre-temps, vous avez pu réussir à faire l'union dans vos rangs avant de commémorer les 60 ans de la disparition de M. Olympio Silvanus.
Écoutez, pour l'union, il n'y a aucun problème pour ce qui me concerne. Je suis responsable du parti en ce moment, dans l'ordre chronologique des postes des vice-présidents. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Nous n'excluons pas les gens. Nous travaillons avec tout le monde. C'est tout ce qui veut travailler. Vous savez, l'engagement politique est un engagement individuel. Les gens viennent en politique parce qu'ils décident de venir d'eux-mêmes. Si ça ne leur plaît pas de venir, ils restent chez eux, ils ne viennent pas. Ce n'est pas pour autant qu'on dira qu'il y a une division. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Nous travaillons avec tout le monde. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Vous parlez de division. Oui, il y a eu quelques mésententes, quelques problèmes liés justement à des personnes. Personnellement, il y a eu un problème qui me concernait, qui est, puisque l'affaire est en justice, parce qu'à un moment donné, nous sommes dans un pays de droit. Quand on n'arrive pas à la maison à régler le problème, il faut aller rapidement voir la justice. Mais ce n'est pas ça qui bloque l'art de parti. Ce n'est pas une question de personne qui va bloquer ce parti. Ce parti avance, et nous avançons, nous mettons de l'ordre, parce qu'il y a une affaire qui me touchait personnellement, qui est la justice. Vous conviendrez avec moi que j'entre pas à l'ordre justice judiciaire, que j'en parle pas, mais bon, je peux vous en dire deux mots. Écoutez, on a parlé d'un détournement qui, pour moi, est un détournement fictif. Comment est-ce qu'on peut détourner de l'argent avec un chèque signé par le président national et la trésorière, ouvrir un sous-compte pour deux personnes, où deux personnes on ne peuvent qu'avoir assez.
Il y avait dit qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur vous, mais comme on n'a pas le temps illimité, souffrez qu'on restreigne, oui. Qu'on revienne. Je voudrais juste me permettre de nous rappeler à nous tous ici la pensée du jour que nous proposons, qui dit « Trouvez toujours le courage de parler et l'envie de clarifier les choses, parce que les silences pèsent comme les pierres, et les pierres deviennent des murs, et les murs, enfin, séparent, et ce n'est pas bien s'il y a séparation, que ce soit dans une famille, dans ce studio, ou bien dans toute la nation. » Je voudrais maintenant qu'on revienne au ministre Trimouan. Le message de vœux à la nation que le président de la République nous a adressé il y a quelques jours, il fait l'objet de larges diffusions. Mais il y a deux aspects qui nous intéressent et sur lesquels nous avons sollicité la présence du ministre Trimouan en sa qualité de ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté, des Relations avec les citoyens de la République, porte-parole du gouvernement. Et je voudrais rappeler quelques extraits du message du chef de l'État quand il disait, par exemple, parlant du péril sécuritaire qui pèse sur nous avec ce problème terroriste. Le chef de l'État disait, je le reprends, « Je réaffirme l'engagement de la nation tout entière face à ces bandes armées à ne céder aucune portion de notre territoire. » Nous mettrons tout en œuvre pour défendre la patrie agressée. Et dans ce combat, je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, nous vaincrons, nous aurons raison des forces du mal. Ces forces seront défaites aux portes du Togo. Et plus loin, le chef de l'État disait, et je le reprends toujours, nous devons avoir une conscience éclairée et permanente de ce que le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière entrave notre aspiration à vivre en paix, à poursuivre les activités quotidiennes en toute quiétude et à travailler au développement de notre pays. J'en appelle donc à la vigilance de tous et à notre sens du devoir, à notre sens du patriotisme pour qu'ensemble nous puissions créer les conditions d'une riposte constante, vigoureuse et efficace contre ces menaces multiformes. Le chef d'État parlait de la loi de programmation militaire et du combat militaire. Mais, monsieur le ministre, pour ce qui est du sens du patriotisme et de la conscience éclairée que nous tous, couche sociale togolaise, nous devrons développer
face au péril du terrorisme. Voudrez-vous vraiment nous en clarifier et nous les rappeler, M. Trimoy?
Vous savez, nous sommes dans une guerre contre le terrorisme. Ce sont des ennemis de notre pays et des ennemis de chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement la frontière nord du Togo qui est attaquée. C'est chacun d'entre nous ici à Lomé, à Kébou, à Bassar qui est attaqué. Le territoire nous appartient à nous tous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, le phénomène terroriste lui-même est une gangrène. C'est un cancer qui s'est métastasé dans la sous-région. L'objectif des terroristes, c'est de venir à la mer. Ce n'est pas seulement rester dans les savanes. C'est occuper tout le territoire, avoir une percée qui leur permet d'arriver sur la côte ici. Donc de prendre Lomé, de prendre Cotonou, de prendre Abidjan, de prendre Accra, toutes ces villes-là. C'est leur objectif. Ça veut dire qu'en fait, ils ont commencé à attaquer là-bas. Ce n'est pas parce que pour l'instant, Lomé, nous avons une sorte de quiétude que leur objectif n'est pas de venir nous envahir ici. Donc nous sommes tous concernés par ce phénomène. En 2019, le chef de l'État avait déjà au Parlement annoncé que on avait des cellules dormantes dans notre pays, des terroristes. C'est-à-dire que vous avez des groupes qui ont des éléments qui sont infiltrés dans la population et qui sont là, pour l'instant, ne sont pas actifs, mais qui peuvent être activés à tout moment. Nos services de sécurité travaillent à les démanteler les unes après les autres, mais ils ne peuvent être efficaces sur ce démantèlement que si nous y contribuons. Et nous tous, nous ne pouvons pas porter les armes. Nos soldats ont pris sur eux de donner corps et âme à la défense physique de la patrie en utilisant les armes. Mais nous pouvons donner l'information pour que ces soldats soient efficaces. Et ça, notre rôle patriotique, le premier rôle patriotique, c'est celui-là. Vous avez vu que depuis, nous avons changé notre système d'information. Nous ne donnons plus d'informations détaillées sur ce qui se passe. Parce que le chef d'État l'a dit.
Et nos journalistes, nous nous en plaignons.
Et vous ne devez pas vous en plaindre. Vous devrez plutôt féliciter cela. Pourquoi? Parce que, au fond, qu'est-ce que le président évite de faire? C'est de donner un sentiment de psychose dans la population. Parce que ça va entraver nos activités, il l'a dit. Ce terrorisme veut entraver nos activités, notre vie quotidienne paisible. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas le nombre de morts qu'il y a eu hier, avant-hier, tel jour sur les fronts, que la guerre n'existe pas. Elle existe. Nous avons des pertes en vie humaine. Ils ont des pertes en vie humaine. Nous leur en causons des dégâts. Mais ils ne vous donnent jamais l'information sur leurs dégâts à eux. Ils ne vous disent jamais combien ils ont perdu de gens, combien on les a frappés. Parce que quand vous donnez vos informations à vous, c'est comme si c'est vous qui perdez, puisque chaque fois on n'a que le nombre de buts que vous avez reçus, vous, et pas eux. Donc, dans le mental quotidien, on a le sentiment que c'est nous qui sommes en perte. Or, il faut remonter le moral, non seulement des troupes, mais aussi de notre population. Mais nous ne devons pas oublier qu'il se mène une guerre sur notre territoire, aux frontières nord, mais que l'ennemi est aussi infiltré parmi nous. Et donc, nous devons signaler systématiquement, quitte à devenir même paranoïaque, il faut signaler systématiquement toute modification de la composition dans votre quartier. Toute information, tout trouble, toute différence, tout changement inhabituel dans votre quartier. Il vaut mieux à la limite dire quelque chose qui soit inutile, que de réserver pour vous quelque chose que vous pensez être banal et qui demain va faire du tort. Parce que nos services de sécurité ne seront efficaces que si nous contribuons à les informer. Et c'est par cette information-là, c'est notre premier rôle patriotique. Le deuxième rôle patriotique, c'est de nous engager, bien évidemment, pour ceux qui ont envie d'aller dans les armées. Oui, il faut vous faire recruter dans les armées si vous le souhaitez, exercer le métier des armes. Que ce combat qui se mène ne soit pas décourageant pour vous. Parce que c'est un honneur que de le faire. Et c'est un métier normal et honorable de le faire. Troisième patriotisme, c'est de continuer à produire, à faire fonctionner notre économie. Parce que l'objectif, c'est de nous paralyser. Ça s'appelle terrorisme. Avoir tellement peur qu'on devient incapable de bouger ou de faire quoi que ce soit. Et ça, nous ne devons pas tomber dans ce piège. Nous ne devons pas nous laisser emporter par l'extrême peur qui fait en sorte que nous sommes devenus incapables d'agir. Nous devons continuer à vivre comme si ça n'existait pas. Parce que ce combat, il est inscrit dans la durée. Le mouvement a commencé, vous voyez, c'est un vent qui part de l'est vers l'ouest. Et compte tenu de la configuration de la sous-région et de ce que certains de nos pays voisins n'ont pas le contrôle total de leur territoire et que certains bandes, groupes armés sont installés dans ces zones qui ne sont pas maîtrisées par ces États, bien évidemment, nous avons le danger à nos portes tout le temps. Ce que le président a dit, c'est que ça ne veut pas dire qu'ils ne nous attaqueront plus. Ils nous attaqueront de temps en temps, mais ils ne s'installeront jamais sur nos territoires. Ça, c'est un gage qu'il a donné.
Franco,
en revanche, il peut faire des percées. Ouais. On aura toujours ces petites frappes aller-retour, mais ils ne s'installeront jamais sur le territoire togolais.
Sur le sujet, Franco ?
Oui, monsieur le ministre, pensez-vous qu'on peut vraiment faire cette lutte dans la solidarité quand on remarque de plus en plus que la pauvreté s'installe véritablement dans le pays ? Et tout à l'heure, vous avez parlé du 13 janvier où on va commémorer l'assassinat de Sylvain Ousmane.
C'est le programme de l'UFC, ça ?
De l'UFC, bientôt le 5 au niveau de UNI, ils vont partir pour la commémoration du décès de Yadema. Pour d'autres anciens présidents, on n'en parle plus. Est-ce que dans cette division minorité et qui accapare les biens du pays, si vous nous permettez toujours cette expression, la majorité qui coupe dans la misère, et c'est-à-dire cette division qu'on crée autour même des anciens présidents de notre pays. Est-ce que pensez-vous, et avec, bien sûr, le cortège des prisonniers, vos collègues, par exemple, Dimo Ouré, qui est en prison, on a l'impression que ça ne meut personne. Il y a les jeunes de Tigre Révolution, dont on parle beaucoup, que les homolous, pourquoi ne pas relâcher ces personnes pour que cette solidarité-là qu'on veut.
Ces derniers temps, les gens évoquent aussi le cas de Pacha et de ses compagnons. Monsieur le ministre, les propos de Franco, ça touche le raffermissement du tissu national devant tous ces périls.
Oui, mais vous mélangez beaucoup de choses. On va les prendre un à un. L'État ne célèbre aucun ancien chef d'État au Togo. L'État togolais ne célèbre aucun ancien chef d'État. Les partis politiques peuvent célébrer leurs héros, leurs leaders. L'UFC célèbre Sylvanus Olympio. Si UNI veut célébrer le président Yadema, il peut le faire parce qu'il considère que c'est son héros à lui et c'est son leader. Mais l'État togolais ne célèbre aucun ancien chef d'État.
Mais dans ce sens-là, monsieur le ministre, est-ce que le Togo ne gagnerait pas à honorer un certain nombre de figures historiques?
Mais absolument, c'est quelque chose vers lequel il faut réellement qu'on évolue. Nous avons commencé cela, rappelez-vous, la commission Monseigneur Dosset, à l'époque, sur la réhabilitation de l'histoire du Togo, qui a d'abord fait une série de propositions que l'État a commencé à mettre en œuvre progressivement, c'est-à-dire la reconnaissance de ses leaders, leur création. Est-ce qu'il faut faire un jour pour célébrer la totalité de nos anciens présidents? On peut réfléchir vers cela. Mais pour l'instant, ce que je voudrais surtout dire, ce que l'UFC célèbre Sylvanus Olympio, que UNIR célèbre le président Yadema, ce n'est pas une célébration d'État. L'État ne célèbre aujourd'hui aucun ancien chef d'État. Donc, ça ne peut pas être un objet de division lié à l'État. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, vous avez évoqué la nécessité d'affermir le tissu social, avec la vie chère, la pauvreté qui s'installe. Mais la pauvreté ne s'installe pas seulement au Togo, elle s'installe dans la sous-région et dans le monde. Nous avons aujourd'hui les éléments de la crise économique qui s'installe chez nous. Il y a la guerre, il y a la vie chère, il y a les cours, etc. Vous connaissez tous ces éléments, on ne va pas revenir là-dessus. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour amortir cela? Vous avez une série de mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant. Je ne parle pas seulement des 10 mesures du mois de septembre. Mais si vous parcourez la loi de finances pour 2023, par exemple, toute une série de mesures ont été prises. On peut les prendre une à une si vous voulez, mais ça va prendre beaucoup de temps. Je donne simplement une ou deux mesures qui vont être reconduites. Toutes les anciennes mesures de l'année dernière ont été reconduites. Mais prenez par exemple aujourd'hui le nouveau barème de l'IRPP, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Tout le monde, tous ceux qui travaillent, payent l'IRPP. Mais on a revu le barème. Et le barème qui a été revu dégage aujourd'hui un surplus de pouvoir d'achat. Et vous pouvez le constater à partir de la fin du mois prochain, si vous prenez vos bulletins, vous les comparez, vous verrez la différence. Puisque l'État a restitué une part de prélèvement qu'il faisait normalement au titre de l'IRPP, de sorte à augmenter le pouvoir d'achat. Deuxièmement, nous avons les augmentations de salaire qui ont été faites. Troisièmement, nous avons augmenté la base aujourd'hui du SMIC. Beaucoup de gens, quand les pays voisins avaient commencé à le faire, beaucoup se sont émus de ce que le Togo n'avait pas encore relevé sa base du SMIC aujourd'hui, du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ça a été fait par un dialogue permanent entre les centrales syndicales et le patronat en présence de l'État. Rappelez-vous, on avait déjà évoqué en disant qu'au Togo, ce n'est pas l'État qui fixe le SMIC. C'est un dialogue de trois personnes, l'État, les centrales syndicales et les patrons. Puisque le SMIC s'applique d'abord au secteur privé, ce sont les patrons qui le payent et qui le supportent. Et finalement, ils ont trouvé un terrain d'entente. Alors les gens disent, oui, mais comment ça va se faire puisque on prend les gens en cours, le chiffre d'affaires, etc. Oui, mais en 2011, quand on avait augmenté à 35 000, comment avons-nous fait pour pouvoir assumer cela? Nous prenons les mêmes recettes. Je pense qu'il faut regarder aussi le fait que nous relevons les bases. Le SMIC, c'est le plus petit salaire, hein. C'est les plus petits salaires, ce ne sont pas les grands, ce sont les plus petits salaires. Et donc si nous relevons les plus petits salaires d'un commun accord patronat, État et syndicat, c'est qu'on veut renforcer les bases nécessaires à la résilience face aux agrégats de la pauvreté qui inondent le monde entier. Donc il y a une série de mesures, je ne vais pas détailler les autres mesures, il y en a tout un paquet dans la loi de finances. Je vous encourage à lire la loi de finances, à parcourir les innovations de cette loi de finances et tous les efforts que le budget de l'État togolais va
apporter. Monsieur Franco a également évoqué le cas de certaines personnes en prison, en détention.
Alors vous avez évoqué, c'est là où l'amalgame s'impose, oui. C'est là où l'amalgame s'oppose. Je crois qu'il ne faut pas mélanger beaucoup de choses. Et la première... C'est entre ceux qui ont fait l'objet d'un jugement et qui sont en train d'exécuter des peines pour lesquelles, en réalité, ce que vous demandez, c'est la grâce présidentielle. C'est bien ça. Et puis ceux qui sont en détention préventive, donc qui sont au début d'une procédure judiciaire qui est en cours.
Mais une procédure quand même qui dure depuis des mois, oui, et mais que le jugement n'a pas encore...
Vous savez que ce reproche, c'est pas seulement pour ces cas. Nous reprochons toujours le temps de la justice à la justice depuis longtemps. Il n'y a pas que pour ces détentions. Prenez même les simples affaires foncières que vous avez à la justice. Ça traîne trop. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Pour ce qui concerne les conflits, le contentieux commercial, nous avons fait des efforts de réduction des délais, en passant de 180 à 90 jours aujourd'hui de délai de traitement des affaires contentieuses. Maintenant, sur les questions pénales, il faut réduire les délais, bien évidemment. Mais vous savez, il y a une contingence à la justice qui est liée nécessairement au temps de la contradiction dans la procédure judiciaire. Puisque le droit de la défense s'exerce en contradiction, cela peut prendre du temps en échange de pièces, en documentation, en information de la procédure. Mais si vous voulez, je voulais vous reprendre un peu, j'ai entendu depuis beaucoup de choses, mais vous savez, vous ne pouvez pas demander ça, il faut qu'on soit franc les uns avec les autres. Dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres aussi, il y a aussi la susceptibilité de ceux qui traitent les dossiers. Il y a un passage biblique qui dit... Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et vous demandez mal parce que vous voulez satisfaire vos passions. Je crois que quand on...
S'il vous plaît, encore une fois.
Il y a un passage biblique qui dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mm-hmm. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Oui. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal et vous demandez pour satisfaire vos passions. Je voudrais revenir sur ce sujet parce que vous l'avez évoqué. Et qu'on me le reproche souvent, j'en ai entendu encore hier des commentaires ici. Qui disent, vous ne pouvez pas demander aujourd'hui à un juge qui a le pouvoir de faire une libération conditionnelle, de taxer l'agresser verbalement, lui dire qu'il a mis des gens en prison sur la base de leur opinion politique, fameux détenus politiques dont on parle, et puis en même temps lui demander une faveur. La libération conditionnelle, c'est une faveur, c'est pas un droit. La grâce présidentielle, c'est une faveur, c'est pas un droit. Si vous demandez au président de vous faire une grâce présidentielle et que vous continuez à l'agresser verbalement, bien évidemment, vous ne le prédisposez pas à vous faire cet effort-là. Puisque c'est une faveur que vous lui demandez. Donc si vous voulez réellement, et je vous le dis comme un conseil, vous voulez réellement toucher le cœur des gens pour qu'ils prennent des décisions favorables, alors tenez les discours qui correspondent à cela. Mais si vous les agressez, bien évidemment, vous instrumentalisez une situation, mais l'objectif n'est pas d'obtenir la libération.
Merci, monsieur. Il reste juste 2-3 minutes. Je voudrais également qu'on parle un peu de ce que le chef d'État lui-même a dit. Je le cite, « L'édification de la société juste et équitable » à laquelle nous aspirons, doit se fonder sur un État fort, FORT, doté d'institutions solides. Monsieur Trimouan, est-ce que nous avons aujourd'hui des institutions constitutionnelles fortes et dans leur légalité et légitimité?
Vous savez, dans toutes les démocraties, les institutions se consolident. Il n'y a pas une date où on dit les institutions ont atteint leur niveau de force absolue et ce sont des institutions fortes. Les institutions sont toujours fortes si les hommes qui les animent ont des idéaux qui sont forts. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons fait de grandes réformes dans notre pays. Les dernières sont les réformes constitutionnelles de 2019. Chacun peut dire ce qu'il veut de cela. Mais ce sont des institutions fortes qui ont été construites dans notre pays. Prenez-les toutes. Mais une institution forte, c'est aussi une institution qui suit les procédures tracées pour son renouvellement, pour sa vie, pour son fonctionnement. Vous avez évoqué tantôt avec le ministre Oyin ici les difficultés que traverse l'UFC qui sont de notoriété. Je pense que je ne rentre pas dans le fonctionnement interne de l'UFC et ça ne me regarde pas. Mais ce que nous déplorons, vous avez des institutions qui sont composées sur la base des partis politiques. L'Assemblée nationale par exemple. Si nous fragilisons les instances, donc les partis politiques qui doivent construire ces institutions, nous fragilisons les institutions elles-mêmes. Donc nous n'avons aucun intérêt à avoir des délitements de partis politiques dans notre pays. Nous devons tout faire pour que ces instruments politiques puissent fonctionner en unité, parce qu'elles sont la base de construction d'un certain nombre d'institutions, et si elles sont fragilisées, les institutions elles-mêmes seront fragilisées. C'est un exemple sur lequel personne ne doit sourire des difficultés que traverse un parti politique, même adversaire. Si nous faisons, nous fragilisons les institutions, ce n'est pas une bonne chose. Mais notre pays fait des efforts pour consolider ses institutions. La preuve, cette année, le chef d'État l'a annoncé encore. Nous avons un renouvellement normal de l'Assemblée nationale qui va se tenir au mois de décembre, comme prévu. C'est aussi le signe d'une institution forte, celle qui se renouvelle dans les délais, qui se consolide, qui fonctionne très bien. La 6e législature, au début, rappelez-vous, beaucoup de gens rayaient ces députés en disant que ce sont des députés nommés. Je vous dis, sur les 20 dernières années dans notre pays, c'est l'une des meilleures législatures que nous avons eues.
Les acteurs politiques appréciés, mais on va terminer par les institutions.
Non, je me permets de le dire pour une simple raison. Vous savez, les grandes réformes de ces 20 dernières années ont été faites par la législature présente.
Oui, sauf que les députés n'ont eu qu'à adopter les projets de loi que le gouvernement leur a portés. Aucune proposition n'ayant encore émané d'eux-mêmes.
Ah non, regardez, statistiquement dans le monde entier, 90% des projets de loi, même les parlements les plus performants au monde, oui. 90% des projets de loi sont d'origine gouvernementale.
Mais il y a quand même 10% qu'on entend toujours chez nous ici.
Chez nous, prenez la législature passée ou celle-ci, il y en a qui ont déposé quelques projets de propositions de loi. Après, ça va prospérer en fonction de la procédure. Mais ce qui est important, c'est la qualité du débat qui se tient sur les textes, même qui viennent du gouvernement. Et cette qualité du débat, c'est là où je vous reproche à vous, journalistes, une chose. Je vais finir là-dessus, ne m'interrompez pas. Vous ne venez pas suffisamment au Parlement. C'est mon regret. La presse ne vient pas au Parlement. Et ce n'est pas une bonne chose. Vous avez au Parlement tout un niveau d'étage qui est réservé à la presse. Venez assister au débat, vous vous ferez votre opinion sur la qualité de cette institution. Deuxième, vous pouvez demander une chose. C'est vrai, les travaux en commission ne sont pas ouverts au public. Mais encore une fois, si vous souhaitez, nous pouvons voir avec la présidente de l'Assemblée nationale comment permettre aux journalistes de voir la qualité des débats, parce que les commissions, c'est l'usine à fabrication de la loi.
Je peux vous comprendre, monsieur, mais je vous assure que le club de la presse est bien connecté sur l'Assemblée nationale et nous rendons compte assez fidèlement au jour le jour. Même si le ministre...
Quelle est la dernière fois que vous étiez au Parlement, vous?
Il serait bien.
Nous sommes à l'ère du virtuel. Il n'y a pas besoin de dépasser
il serait
dans les institutions. Il détache toujours un reporter qui nous tient informés. L'occasion également pour nous saluer le travail que fait la direction de la communication de l'Assemblée nationale et qui donne assez de visibilité sur leur travail. Monsieur le ministre, il est minute dépassé, mais il y a une question qui revient avec récurrence. C'est une bonne chose si nous renouvelons l'Assemblée nationale au cours de cette année 2023. Mais il y a des institutions dont les membres sont arrivés en fin de mandat depuis plus de 2 ans qui continuent à fonctionner. Pour d'aucuns, cet état de choses fragilise justement ces institutions. Monsieur le ministre, et vous qui avez la charge de la coordination, il nous arrive souvent de vous interpeller là-dessus.
Oui, alors nous avions vécu, il y a 2-3 institutions qui sont concernées, la HAC, la CNDH et même la Cour des comptes qui doivent être renouvelées. Nous avions un test, la loi, si vous voulez, l'ordonnance 07 bis de 2020 sur l'état d'urgence avait prévu que pendant la période d'état d'urgence, le renouvellement des institutions est gelé. C'est ce qui explique qu'on n'avait pas pu les renouveler à temps pour celles qui avaient fini leur mandat dans cette période-là. Puis l'Assemblée a lancé les processus de renouvellement des mandats pour ces institutions avec les candidatures qui ont été reçues, le traitement qui a été fait et avec toutes les instances qui sont intervenues. L'agenda de fin de session, la session de septembre, n'a pas permis malheureusement de pouvoir faire cette élection, mais je vous garantis qu'à la rentrée de mars, parce que le Parlement est actuellement en intersession, en vacances, à partir de mars, toutes ces institutions seront renouvelées puisque le Parlement a déjà fait le traitement qu'il faut et les votes auront lieu.
Merci, vous l'avez dit, nous avons écouté, nous attendons mars, c'est dans 2 mois.
Absolument.
Eh bien, il est midi, passé de 4 minutes, les auditeurs voudront nous excuser d'avoir un peu débordé sur leur temps, mais c'est toujours pour les informer à bon escient. À présent, nous allons observer une petite pause, et puis nous nous branchons sur vous, sur les deux numéros, le 22, 21, 33, 74 et le 91, 36, 63, 75.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Il est 12 heures passées de 7 minutes. Toujours à nos côtés, le ministre Trimoin, l'ancien ministre Ohin, deuxième vice-président de l'UFC, qui sont à votre disposition et qui sont prêts à recevoir vos commentaires, voire leurs questions. Premier auditeur, bonjour.
Et bonjour.
Oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Kodjo.
Monsieur Kodjo.
Je vous appelle de Badago.
Ok, nous vous écoutons, monsieur Kodjo de Badago.
Tout d'abord, je salue le ministre. Et je veux en venir sur un point que le chef de l'État fait souvent sur les salaires des fonctionnaires chaque fin d'année.
Oui.
Je veux parler du 13e mois qui n'est pas effectif cette année. Donc, s'ils peuvent revoir ça, ça serait bien.
Merci beaucoup.
Sinon, il y a des gens qui galèrent vraiment.
Merci. Nous aurions aimé avoir le ministre des Finances, Sani Yaya, mais son collègue Christian Trémoin pourra nous en dire quelque chose. C'est noté, M. Kodjo. Le suivant déjà en ligne.
Oui, M. Sass, bonjour.
Oh, Sylvain Agbayi.
Oui.
Nous écoutons.
Oui, je salue l'invité.
Les invités.
Voilà.
Oui.
Et pour le ministre, dire que cette législature est la meilleure, et franchement, ce n'est pas appréciable.
Non, l'ami Sylvain, laissons chacun apprécier. Maintenant, si vous avez un avis contraire, libre à vous de le partager avec nous.
Oui, c'est ce que je suis en train de m'exprimer.
Donc,
on connaît cette législature. On avait connu aussi d'autres. Donc, cette législature...
Dites plutôt « je connais ». Parce que le « on », c'est un peu anonyme.
D'accord. Je rectifie.
Oui.
Bon, pour ce qui est de la sortie de présentation de vœux du président.
Oui.
Effectivement, pour ces djihadistes, on est ensemble avec les autorités pour les foutre dehors parce que nous, on a sauf d'alternance, pas avec cette façon. Donc, merci. On est avec eux pour lutter contre...
C'est qui le on? Ça dit que vous, Sylvain Agbayi, vous êtes avec eux, c'est ça?
Oui, je préfère comme ça. Cette fois-ci, je suis avec eux.
Merci beaucoup, Sylvain Agbayi. Un troisième auditeur. Oui, bonjour.
Bonjour, Sass.
Oui.
Apollinaire. Oui.
Ok.
Même rêve.
Merci.
Francis, félicitations à vous.
Oui.
Monsieur le ministre, s'il vous plaît, j'aimerais savoir.
Nous avons deux ministres, Trimoin et Ohin.
Ministre Adjel.
Ok, ça, trimoi.
Oui.
Ok.
Monsieur le ministre, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on va inaugurer l'hôpital Docteur Alatia? J'aimerais savoir le dossier de pétrole de Kela. C'est à quel niveau au niveau de l'État actuellement? En plus, j'aimerais demander le monsieur le ministre savoir que actuellement, on voit les gendarmeries, les policiers, les directeurs de police là. On a peinturé blanc, bleu là. C'est quel regard lui avait à ça?
Merci. Ce serait très simple si vous pouviez vous en tenir au sujet que les deux invités ont développé avec nous. Oui, le suivant, bonjour. Allô?
Oui, bonjour.
Oui.
Oui, c'est Ali.
Ali?
Oui,
okay.
Je vous salue tous.
Oui.
Félicitations pour l'intelligence du monsieur Trémoin, puisque cette intelligence-ci s'était mise vraiment pour le développement du Togo, ce serait bien. Puisqu'il vient de confirmer que le Togo est géré comme une épicerie en disant qu'on ne demande pas de bien. Ça voudrait dire qu'il y a autre manière de demander la faveur. Et surtout quand les institutions internationales demandent de libérer, par exemple, Pacha, on retient Pacha et on nous dit de demander bien. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus la loi. Et ensuite, il parle du fait qu'on confond les prisonniers, mes amis. Je vous dis que c'est lui qui doit plaider les cas de ces prisonniers auprès de Fonia Simbé. Voilà qu'il parle comme ça. Donc, ça montre que vous n'avez pas le ministre là-bas, vous avez le militant Trémoin avec vous. C'est ça qui est dangereux. Les amis, on veut cohésion nationale, oui. Cohésion nationale, oui. Mais nous ne nous comportons pas comme ça. On est Togolais avant tout. Et surtout, on nous chante, je vous ai dit ça la dernière fois, qu'on doit appartenir à l'Union avant de trouver à travailler au Togo. Si c'est comme ça, on ne se voit pas togolais, donc on ne peut pas défendre le Togo. C'est dangereux. Donc, travaillons à la cohésion nationale. S'il vous plaît, monsieur le ministre, votre intelligence, nous en avons besoin pour développer le Togo et non pour détruire le Togo.
Merci, l'ami Ali. Le ministre vous reviendra, mais s'il vous plaît, si nous pouvons nous parler avec une certaine courtoisie,
nous serions tous dans les meilleures dispositions. C'est juste une recommandation personnelle. L'auditeur suivant.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Johannes.
Oui, Johannes.
Je vais aller par du commentaire. Bon, je vais y aller directement. D'abord, par rapport au respect des emblèmes. Moi, il y a une chose que je n'ai jamais compris dans ce pays. Et des policiers, des militaires qui circulent dans la rue sans plaque. Pourtant, ils sont le premier apte à arrêter les citoyens qui circulent à moto sans plaque. Alors, je me dis, la plaque, c'est également une insigne de l'État. Il y a le drapeau qui est marqué sur la plaque des engins. Si ces personnes ne respectent pas cette insigne, comment on peut demander aux citoyens lambda de le respecter? L'exemple doit venir d'où, monsieur le ministre?
La charité bien ordonnée, censée commencer par soi-même.
Deuxième point, le ministre nous a souhaité en début de mission une bonne santé au peuple togolais. Je le remercie. La santé, il peut arriver que la santé soit défaillante. Depuis que Fonia Sibé est au pouvoir, ça fait, je ne sais pas, plus d'une quinzaine d'années, aucun hôpital digne de ce nom n'a été construit dans ce pays. En matière de santé, quand on voit comment les pays voisins évoluent, le Togo, en matière de santé, ne peut pas se comparer à aucun pays de la souris.
Dommage que Johannes s'est coupé, mais je crois que le ministre a écouté l'essentiel. Je rappelle que M. Hin est également à nos côtés pour les vœux de l'UFC et les 60 ans de la disparition tragique du président Sylvain Olympio. L'auditeur suivant. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, c'est monsieur?
Ici.
Pardon?
Ici, CI2FE à Saint-Aubin.
Ok, ok.
Je voudrais seulement remercier monsieur le ministre.
Oui.
Et lui demander humblement ceci. Monsieur le ministre, les Togolais se plaignent depuis toujours parce qu'ils ont faim. Je crois que la façon de se foudrer ne nous arrange pas. Nous avons eu des présidents comme Yadema. Il sait comment gérer ce pays. Quand la population commence à gêner, il va s'asseoir à Kia. Et il invite tous les gens, les chefs de file, ils viennent. On leur donne leur part. Ils vont manger.
C'est quoi leur part? C'est quoi leur part?
Ce que Paul a signalé, ce que la minorité maintenant met dans ses poches.
Ok.
Yadema disait, c'est ça notre problème.
Ça dit, Yadema de temps en temps distribuer de l'argent aux gens, c'est ça?
Tout le monde.
En français facile.
Ça que tu es étudiant, tu as été là-bas, tu as été avec mon fils.
Ok.
Je te connais. Alors, sans sérieux, notre problème, il n'a rien. Les Togolais sont intelligents. Ils vont bien à l'école. Ils ont besoin de travailler. Faites-nous une. Merci.
Je vous en prie, je vous en prie. Mais je vous rappelle que cette façon que Yadema faisait, d'autres personnes le lui critiquaient aussi. Hein. Des gens trouvaient qu'on pouvait investir cet argent dans autre chose. L'auditeur suivant.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Nyamavo.
Monsieur Nyamavo.
Le maire, vous et votre ministre.
Merci.
Oui, je voudrais savoir. Par rapport à la question de savoir si entre l'UFC et l'URPT, j'ai pas écouté la réponse. Mais aujourd'hui, moi, j'ai aimé les oppositions. Hein, parce que, bon, il ne faut pas faire avec la même chose tous les temps. Ce n'est pas que j'ai changé le camp. Mon camp, c'est le Togo. On veut que tout aille bien. En tant que chef de file de l'opposition, par humilité, ils n'ont qu'à faire tout pour voir leurs collègues faire comme Sénégal et Kenya pour qu'on puisse souffler un peu l'alternance. Ça, vraiment, je soutiens tout opposant qui va dans ce sens. Par rapport au ministre Trimois, j'étais un peu sidéré à l'entendre dire que là où il a posé la question, à savoir les institutions fortes, FORT, bon, il dit que pour eux, les institutions sont fortes. Tant pis pour ceux qui pensent autre chose. Est-ce que le ministre veut dire que le chien aboie la caravane passe? Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions. Il est 12h17. Il y a un ensemble de questions souffrées qu'on arrête ici. pour donner quand même quelques minutes à nos invités de vous reprendre. Monsieur le ministre, c'est vous qui avez été au centre de beaucoup d'attention. Vous n'avez pas le temps de répondre à chacun individuellement, mais de ramasser quand même leurs réponses.
En tout cas, je vous remercie et je voudrais en particulier remercier tous les auditeurs et auditrices pour l'intérêt qu'ils ont porté à cette émission et les questions et commentaires qu'ils ont bien voulu partager avec nous. Sur la question du 13e mois, alors, le 13e mois au Togo n'était pas une tradition, hein, il faut quand même le rappeler à nos compatriotes. Ce qu'on appelait 13e mois à l'époque, c'était une avance remboursable sur 12 mois. Donc, on le donnait effectivement 13e mois, le président Yadema l'avait fait, mais c'était remboursable sur 12 mois. Donc, ce n'était pas un 13e mois au sens propre de la fonction publique. Il n'y a pas de 13e mois au Togo, l'année compte 12 mois qui sont payés, et le 13e mois qui était donné à l'époque était une avance qui était remboursable quand même. Sur la législature actuelle et... Alors, je dis que la législature actuelle était la meilleure. Oui, bien sûr, je dis encore et je le répète. Hein, la qualité d'une législature ne s'apprécie pas à l'empoignade, ni à la façon dont s'agresse verbalement, comme on l'a connu à la 5e législature. Et qui, parce que les gens cherchent du show, ils veulent voir une démonstration qui se fait en montrant que tel est résistant à tel. Non, la qualité d'une législature se fait sur la qualité du travail législatif, de la qualité des débats, des contributions à l'amélioration des textes et surtout la courtoisie avec laquelle on peut se critiquer ou ne pas se mettre d'accord. C'est ça la qualité d'une institution. Sur les gendarmes et policiers et la couleur bleue, mais traditionnellement, la police et la gendarmerie ont toujours eu les véhicules peints en bleu. Mais ce n'est pas une spécialité togolaise. Hein. Elle est quasiment dans la plupart des pays. Alors, je ne sais pas l'origine du bleu, du blanc sur les voitures de police et de gendarmerie, mais je crois qu'on peut demander pour qu'il nous explique d'où ça vient. Mm-hmm. Alors, je voulais remercier M. Ali pour le capital intelligence qu'il me prête et le rassurer que toute notre intelligence et celle de mes collègues sont au service des Togolais. Vous savez, travailler sur les droits de l'homme, c'est un métier très difficile. La subtilité pour construire les droits de l'homme et consolider des institutions, c'est un travail technique, mais c'est un travail de subtilité politique aussi. Donc vous pouvez peut-être avoir ce sentiment que dans nos propos, nous avons peut-être dit qu'il fallait demander de telle ou telle manière, mais je répète encore une fois, vous ne pouvez pas demander une faveur à quelqu'un et en même temps l'agresser. Dans notre langue ici, on dit « Egbeblewe honamou lefiosi ». C'est une expression de notre langue nationale. Donc, cette expression-là, il faut la traduire dans les faits aussi. Quand vous demandez un droit, vous pouvez élever la voix. Quand vous réclamez une faveur, vous devez baisser un peu la voix. Et ce que je voudrais dire encore une fois, ce n'est pas parce que vous taxez de détenus politiques que vous faites avancer leur libération. Je dis encore, la seule chose, c'est que tous les plaidoyers qui sont possibles sur ce terrain, si vous utilisez des notions qui ne sont pas conformes, vous allez simplement décourager tous ceux qui sont en train de plaider en faveur de ça. Voilà ce que je dis, simplement. Mais nous travaillons toujours à ce que la procédure soit améliorée.
Il y a également qu'il y a des éléments de sécurité qui circuleraient sans plaque sur leur véhicule.
Alors oui, là je voudrais vraiment d'abord le remercier pour cela et interpeller ici toutes les forces de sécurité, toutes les autorités. La police nationale a une inspection. Ce genre de choses n'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas, vous, qui êtes chargé précisément de faire respecter cette loi de l'immatriculation des véhicules et des véhicules à moteur, être les premiers à ne pas les utiliser. Même quand vous êtes en opération, et nous avons des services qui sont en opération, ils ne roulent pas sans plaque d'immatriculation. Ils peuvent rouler avec des plaques, d'autres plaques d'immatriculation parce qu'ils sont en opération d'infiltration, parce qu'ils sont en renseignement. Mais ils ne roulent pas sans plaque d'immatriculation. Et j'interpelle l'inspection générale de la police pour que ces agents de police qui ne respectent pas ces règles soient sanctionnés. Et à nos compatriotes, je pense que la police a un numéro vert. Vous devez pouvoir dénoncer ce genre de comportement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous noterez que nous avons rajouté sur la poitrine des policiers leur numéro matricule, leur nom. Vous pouvez identifier, que ce soit en matière de corruption, que ce soit sur ce genre de comportement, nous devons être des modèles. Parce que c'est nous qui avons la priorité.
Merci. Le bilan du chef de l'État en matière d'hôpitaux sur lequel...
Alors, sur la question de Dr. Lafia, bon, je crois que vous avez reçu ici un expert, un consultant qui vous a donné...
À chaque fois que vous apparaissez, les auditeurs vous le rappellent.
Mais je vous dis encore, cet hôpital, vraiment, s'il ne porte pas mon nom un jour... Non, mais vous savez, aujourd'hui, on travaille énormément sur ces questions. Et quand vous prenez la loi de finances actuelle, par exemple, il est prévu l'amélioration des plateaux techniques des hôpitaux. Vous avez vu tous les efforts qui ont été faits pendant la période de Covid. Je ne vais pas prendre du temps pour énumérer toutes ces questions. Sur Dr. Lafia, la date d'inauguration, vous avez reçu ici un expert.
Deux experts.
Deux experts qui vous ont donné des perspectives sur le sujet. Et donc, il me semble que les travaux avancent très, très bien. Il faut peut-être leur demander d'organiser une visite de chantier pour la presse. Ça rassurerait peut-être nos compatriotes sur l'état
d'avancement. Je leur avais demandé maintenant, je le réitère. Et je rappelle que hein, leur passage ici a contribué un peu à vous décharger sur le fameux hôpital.
Oui, mais ils m'ont déchargé qu'à moitié parce qu'en réalité, en réalité, ils ont voulu se défausser. En évoquant le fait qu'ils n'avaient pas donné une date prévisionnelle. Bien évidemment, ils ont donné une date à l'époque. Rappelez-vous, vous avez tous assisté à cela. Après que des données aient changé.
Je peux dire que c'est eux qui vous avaient un peu induit en erreur.
Qui nous ont vraiment induit en erreur, si je peux le dire de cette manière. Non, parce que ça, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Vous savez,
mais au-delà de ça, les jetés trouvent que depuis qu'il est aux affaires, Fon Yassingbé n'aurait pas fait, en termes de construction d'hôpitaux, de référence. Et souvent, comme les gens comparent avec les pays voisins.
Faites attention aux comparaisons quand même sur les pays voisins et sur les autres pays. Rappelons-nous d'où nous venons. Notre pays a été le seul de la sous-région à avoir 15 ans de crise politique et sous sanction pendant 15 années. Les secteurs qui se sont le plus détériorés, ce sont les secteurs comme le secteur de la santé.
L'école également. La santé.
Donc, là où les autres avaient déjà bâti un pan de mur élevé, nous nous recommençons à la fondation. N'oublions pas cela. Ça doit nous enseigner pour l'avenir, en disant nos crises politiques, limitons-les à ce que cela ne nous crée pas des reculs de cette nature.
Merci.
Donc reprendre le chantier de la santé en entier, comme on est en train de le refaire aujourd'hui, ça prend du temps, ça demande des moyens.
Merci, ça ne serait pas le temps. Et puis on fait finir avec ce auditeur qui a rappelé qu'en son temps, le président Yadema de temps en temps rassemblait les gens pour distribuer ce que vous et votre chef, vous ne feriez plus. Je parle au conditionnel. Hein.
Mais je crois que vous avez donné la réponse. Vous avez donné la réponse. Aujourd'hui, nous montons sur notre budget et le président de la République a choisi d'investir sur des centres industriels, sur la formation, sur une série de leviers qui permettent la création d'emplois et l'autonomisation. Donc ce choix politique a été fait et c'est ce choix que nous menons. Vous avez donné la réponse vous-même tout à l'heure.
Merci, monsieur le ministre Trimoy. Monsieur Ohin, un ou deux auditeurs sont revenus quand même sur l'accord signé en 2010 entre l'ancien RPT-UFC, où est-ce qu'on en est actuellement. Et puis il a également souhaité que le chef de file de l'opposition joue réellement son travail de rassemblement et fédère autour de lui des forces qui puissent nous amener à l'alternance éventuellement. Monsieur Ohid.
Oui, c'est vrai que cet accord RPT-UFC revient souvent, on nous en parle souvent. Et certains vont jusqu'à dire que cet accord a plongé le pays dans le marasme et autres. Mais je peux vous dire que à l'époque où cet accord a été signé, je ne pense pas qu'il y a mieux à faire que cela. Nous étions en 2010, quand on a signé cet accord, dans une situation de crise terrible où le pays était en effervescence. Personne ne savait exactement ce qui aurait pu se passer. Et cet accord nous a permis justement de retrouver la paix. Et nous savons très bien que rien ne peut se faire sans la paix. Donc, si cet accord est à refaire dans les mêmes conditions, parce que pour nous, dans mon parti politique, le plus important, c'est la paix. C'est parce que nous savons très bien, comme je le disais tout à l'heure, que rien ne peut se faire. Nous avons signé cet accord-là pour ramener la paix au pays. On ne peut pas dire que cet accord a été un accord inutile. Ouais. Ça a apporté beaucoup.
Merci. Mais justement, par la suite, M. Nyamava souhaite que le chef de file, il se mette dans son rôle vraiment de rassembleur pour fédérer autour de lui des forces, peut-être, pour réaliser l'alternance.
Mais écoutez, c'est ce qu'il a essayé de faire avant que M. Olympio ne quitte le Togo. Bon, j'espère qu'il va revenir très bientôt. Nous avons rencontré pas mal de chefs de parti avec qui on a discuté, il faut parler. Mais vous voyez, comment peut-on parler aux gens qui ne sont pas sourds mais qui ne veulent pas entendre. Ce n'est pas évident. Nous avons ce problème-là au Togo, de tous les bords d'ailleurs. C'est ça le problème que nous avons.
Merci. La technique nous signifie que notre temps est vraiment fini. Monsieur Trémoin, nous avons une auditeur vraiment terrible. Madame Messi, si vous nous écoutez, vous la connaîtriez. Elle dit que malheureusement, elle a perdu la voix. Elle ne peut pas parler, mais elle me recharge de vous saluer.
Merci à madame.
Après, je vous passe son numéro. Peut-être que elle-même.
Merci beaucoup.
Voilà, nous allons nous amener à l'émission. Franco, bon, les ministres, nos deux invités vont conclure très rapidement. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire en quelques secondes?
Oui, bon, et à propos des hôpitaux, même Tampa Express, le dernier numéro, nous avons même titré, hein, maintenant que Docteur hein, Lafia est connu privé, mm-hmm. quel hôpital pour immortaliser le long règne de Faure Gnassingbé? Parce que ça fait déjà 17 ans. Voilà ce que l'auditeur a exprimé. Ça veut dire que c'est une préoccupation des Togolais.
Merci.
Et pour le budget, oui. nous on a... On a même déjà fait des émissions.
Eh bien, là-dessus. Monsieur Ohin, merci pour les vœux de l'UFC de votre président. Vous allez annoncer demain le programme commémoratif des 60 ans de la tragique disparition de président Sylvestre Olympio. Un mot pour conclure cette émission en quelques secondes.
Écoutez, je demanderai justement à tous qui sont intéressés par cette conférence débat de venir demain à notre siège. Il faut écouter le débat qui est très important parce que le président Sylvestre Olympio quand même est un icône dans notre pays et a fait beaucoup. Il serait important justement qu'on revienne sur ces choses, sur ce qu'il avait prévu de faire, sa vision du Togo. C'est très important justement que nous repensions à cette vision-là qui ne peut que nous aider.
Merci. Le thème c'est Sylvestre Olympio, analyse, bilan et leçon d'une vision politico-économique actuelle. Le ministre et moi, je constate que les auditeurs vous aiment beaucoup.
C'est vrai.
Ça veut dire que vous allez trouver un peu de temps pour être souvent avec nous. Mais en attendant, votre conclusion pour ce jour.
Donc, j'essaierai de venir plus souvent. Et puis, vous savez, nos compatriotes ont besoin aussi qu'on les rassure sur la manière dont l'État fonctionne. Je voudrais encore les remercier. Et puis, surtout leur dire, vous savez, que cette année 2023, et comme les années précédentes, nous ferons encore le maximum que nous pouvons pour améliorer les conditions des droits de l'homme sur le patriotisme, le civisme. Et contrairement à ce que l'impression que ça peut donner, nous sommes très sensibles à la situation de tous ceux qui sont en détention. Nous y travaillons abondamment et énormément au quotidien pour faire libérer ceux qui sont libérables, pour essayer d'atténuer la situation des autres. Mais parfois, je dois l'avouer, c'est pour ça que j'ai évoqué la citation que j'ai faite tout à l'heure, certaines organisations ne nous facilitent pas la vie. Essayons d'être sensibles au sort de ceux qui sont en détention, mettons-nous à leur place et à partir de ce moment, posons des actes qui aident à régler ce sort. Ne polémiquons pas à partir de ces données-là, sinon nous n'améliorons pas.
Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons encore une fois bonne heureuse année 2023, bon week-end et le Club La Presse vous retrouve le lundi prochain à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.
93.5 Canal FM. Se battre l'un contre l'autre pour un oui ou pour un non. Que sais-je encore, c'est le danger. Des vies en danger pour des choses qu'on ne comprend guère qui arrivent.
Pardonnez, cette fois 60 fois.
Arrêtez tout ça pour pas faire si mal. Nous demandons pardon de tout cœur à ceux qui ont souffert, souffert en silence. C'est le malin qui nous emporte.
Pardonnez, toujours pardonnez.
Maintenant pour nous, mais pour le Seigneur, apaiser ses souffrances et ses violences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient morales, car c'est l'Éternel qui sauve encore.
Faut pardonner cette fois 70 fois.
J'implore sa miséricorde. Faut pardonner cette fois 70 fois. Faut savoir que colère entraîne querelle. Qu'il faut y renoncer même si c'est dur. C'est l'indulgence, la bonté de cœur qui nous font à tous pour s'armer d'amour et mieux tolérer ces dérapages pour recommencer une vie meilleure. Les laisser se battre l'un contre l'autre pour un oui ou pour un non. Que sais-je encore, c'est le danger, des vies en danger pour des choses qu'on ne comprend guère qui arrivent.
On sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit.
Maintenant pour nous, mais pour le Seigneur, apaiser ses souffrances et ses violences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient morales, car c'est l'Éternel qui sauve encore.
Yeah, pardonner.
Car c'est l'Éternel qui sauve encore.
cette fois sans auditoire. Cette fois sans auditoire.
Il faut pardonner.
Pour recommencer.
Il faut pardonner.
Car c'est l'éternel qui sauve.